20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, je ne me cache pas, lance un Emmanuel Macron, vous le verrez, vous l'entendrez, plutôt en forme, hein, en visite de terrain aux Antilles. Le chef de l'État demande de l'aide à tous pour expliquer les réformes qui passent difficilement. Nous reviendrons sur les mots du président à la une des informés de France Info. Retour également sur ce duel télévisé sur France 2 entre Édouard Philippe et Laurent Wauquiez sur la question essentiellement des migrants. Deux visions, deux droites irréconciliables s'affrontent. Une annonce a retenu l'attention hier soir, la possible dégressivité des allocations chômage pour les salaires très élevés, ceux qui joueraient d'une très forte employabilité. Ça y est, je l'ai dit, mais qui donc est visé? Avec une dette publique qui galope, 99% du PIB au deuxième trimestre en France, bientôt 100%, la France est dans le rouge depuis longtemps. Rien de comparable, certes, avec une Italie surendettée qui veut faire de la relance en creusant les déficits. Rien ne va plus en Europe. On en parle avec nos invités. Bonsoir, Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International.
Bonsoir.
Partenaire des informés. Bonsoir à vous également et bienvenue, Soisy Kemener.
Bonsoir.
Autre partenaire des informés, rédactrice en chef politique à Marianne. À nos côtés également, Franck Tapiro. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Bienvenue, président fondateur de l'agence Hémisphère Droit, à la tête du laboratoire de marketing émotionnel Data Calab. Rappelez-moi l'intitulé de votre titre exact à ce sujet.
Chief Emotion Officer, c'est un acronyme qui change de CEO.
Ah, je suis épaté.
Voilà.
À nos côtés également, bonsoir et bienvenue, Thibaut Musergue.
Bonsoir.
Vous êtes directeur programme Europe à l'International Republican Institute, auteur de La Quadrature des Classes, coédition Le Bordelot. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Alors le propos surprend. Emmanuel Macron, au premier jour de son périple aux Antilles, a lancé depuis Fort-de-France un appel pour le moins inhabituel en direction des Français.
Je ne me cache pas. Et parfois, hors de son contexte, une phrase, un mot, vous le faites beaucoup, hein. Je comprends, ça fait un peu partie de votre fonds de commerce, mais ça le fait sortir. Et du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une forme de distance. Si j'étais quelqu'un qui avait de la distance, je n'irais pas auprès des gens. Je ne répondrais pas aux gens. Je ferais ce qu'on a fait jusqu'ici tant de fois. Bonjour, vous allez bien? Et ça marche beaucoup mieux. Moi, je prends le temps d'aller au contact, d'expliquer, de parler aux gens quand ils ne sont pas d'accord, d'expliquer ce qu'on fait. Parce que ça, c'est moins facile, mais c'est la clé d'une transformation. Donc vous me verrez toujours avec la même énergie comme ça.
Voilà, je ne me cache pas. Et le journal Le Monde relate également, aidez-moi, le chef de l'État en appelle aux journalistes, à la population, aux élus pour expliquer sa politique. Soisy Kemener, qu'est-ce qu'il a? Il a mangé du lion, Emmanuel Macron?
Alors, je ne sais pas ce qu'il a mangé parce qu'on n'est pas avec lui, mais non, ce qui est sûr, c'est que c'est l'alerte, c'est la côte d'alerte. Il a atteint la côte d'alerte dans les sondages. Il voit bien que son architecture politique est pas très solide en cette rentrée. Commence même à vaciller sérieusement sur ses fondations. Son plus proche, Gérard Collomb, qui commence à raconter ses états d'âme devant des journalistes. Son plus proche, Gérard Collomb, qui aussi annonce tout seul qu'il va quitter le gouvernement et puis quand. Alors à ça, on peut ajouter la démission surprise, même si on l'attendait, mais pas à ce moment-là, de Nicolas Hulot. On peut ajouter la relance qui vient pas. On peut faire toute une liste que vous connaissez. C'est un inventaire. Cette rentrée est très compliquée. Et puis, il a compris que finalement, l'une des premières critiques qui lui était adressée, c'est celle de la déconnexion. Et donc, on voit bien, là, dans ce déplacement aux Antilles, la volonté, d'inverser la vapeur et puis de dire, vous m'avez mal compris, vous m'avez mal entendu, et de réécrire, de recommencer à écrire une nouvelle histoire. Ça va être compliqué parce que les épisodes précédents, à mon avis, laissaient des traces.
Virginie Lepetit, quand il dit « aidez-moi », il s'adresse notamment aux journalistes également. C'est inhabituel chez lui?
Oui, c'est inhabituel, mais c'est effectivement... On lui a beaucoup reproché sa distance et sa froideur. Et là, il se place en position... il se montre vulnérable et au final, ça devrait sans doute... changer un peu cette image extrêmement froide qu'on lui reprochait.
Il est plutôt lâché, hein, dans ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu.
Oui, c'est lâché, mais c'est sous contrôle. Enfin, il est pas non plus. Je pense pas qu'il soit en roue libre, Emmanuel Macron, devant les journalistes en particulier. Et puis oui, il demande une certaine connivence et une certaine. Moi, ça me rappelle un peu Nicolas Sarkozy, hein, franchement. C'est ce côté un peu connivence, indulgence, etc. Bon, bah, c'est une nouvelle façon de faire. On verra ce que ça lui rapporte.
Oui, Franck Tapiro, vous êtes d'accord avec Virginie Le Petit. Il y a un petit peu de Sarkozy dans tout ça. Mais est-ce que le terrain, c'est la bonne formule à chaque fois? Aller, au fond, au contact des Français.
Oui, vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il a mangé du lion? Moi, je pense qu'il s'est plutôt mijoté un petit plat du Macron aux lentilles, qui lui va très, très bien. Et je pense qu'il est très, très à l'aise sur le terrain. Pourquoi? Bah, là, il nous rappelle le Macron de la campagne. Et c'est là où il est le meilleur. Quand il est en contact des gens, même sur un terrain hostile. Et je pense qu'il a besoin de retrouver ce contact. On sait très bien depuis le début, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se passe un peu aussi des médias, parce qu'il veut retrouver ce lien direct, soit via les réseaux sociaux, soit sur le terrain. Et c'est là où il est le plus à l'aise, et on le voit. Il est même euphorique quand il mime les anciens présidents, qui dit « alors ça va » avec les bras levés. Je trouve que, voilà, il se lâche un petit peu. On sent qu'il a besoin de retisser un lien émotionnel et affectif qui s'est un peu distendu.
Un peu charnel, enfin, quand même.
Sauf que ça lui va, très bien.
Vous dites un peu distendu, qui s'est énormément distendu, là. On ne veut pas laisser de côté, quand même, la situation du président de la République en cette rentrée, de façon tout à fait objective. Hein. Regardons les sondages d'opinion.
Les sondages, j'ai jamais regardé les sondages depuis 30 ans. D'abord, on ne gouverne pas avec les sondages.
Visiblement, il est assez sensible.
Et un président ne se fait pas élire pour être populaire. Un président qui réforme sait très bien qu'il sera impopulaire. Donc, par rapport à Emmanuel Macron, je pense que là, on est d'accord quand même que toutes les réformes tentées font évidemment qu'il va vers une impopularité de mise quand on est un président réformateur. On a bien vu dans les sondages pendant des années, à la tête des sondages, il y avait, je me rappelle, à l'époque, il y a 30 ans déjà, Raymond Barre et Simone Veil. Bon. Surtout quand ils n'étaient pas les mains dans l'actualité politique. Donc, vous savez, les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut.
Nous n'avons pas encore entendu Thibault Muzac. Thibault Muzac, qu'est-ce qui pose problème? Ce sont les réformes ou c'est l'explication des réformes?
Enfin, l'explication des réformes, on parle d'impatience. Emmanuel Macron parlait d'impatience. L'impatience, moi, je veux bien. Le problème, et les Français sont d'accord pour être patients, mais le problème, c'est que ça fait 30 ans, voire plus, qu'on leur demande d'être patients, finalement. Et je pense que là, le quinquennat est vraiment rentré dans le dur. Pendant un an, finalement, il a marché sur l'eau. Tout allait bien. Quoi qu'il arrive, tout ce qu'il touchait se transformait en or. Là, maintenant, il est dans une période de difficulté qui a commencé avec l'affaire Benalla, qui a été très mal gérée du début à la fin. Oui. Les Européennes se profilent. Ça se passe pas très, très bien, y compris à Bruxelles avec les partenaires européens, parce que c'est difficile de réformer l'Europe et qu'on n'est plus en 1799. L'Europe, c'est plus la grande nation et les républiques sœurs. Et donc là, Emmanuel Macron essaye de trouver un moyen de s'en sortir. Il en appelle finalement au peuple, à tout le monde de l'aider. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie. Une de ses grandes forces, c'est qu'il est considéré dans les sondages, désolé de le rappeler, comme quelqu'un de fort. En étant réformateur, justement, en disant j'assume d'être impopulaire pendant quelques années, je pense que c'est un meilleur placement.
20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous. On va poursuivre dans un instant, je vous rassure, avec vous, Léo Técher.
Une faille de sécurité révélée ce soir par Facebook. 50 millions de comptes ont été piratés sur les 2 milliards d'usagers à travers le monde. Le créateur du réseau social Mark Zuckerberg promet que tout a été réparé hier soir. Mais les investisseurs ne sont pas rassurés. Le titre Facebook perd 3% à la bourse de Wall Street. Une police de sécurité du quotidien à Grenoble, c'est la promesse de Gérard Collomb. Sur place aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a déploré un taux de violence supérieur à la moyenne nationale dans cette ville. 35 policiers supplémentaires y seront donc déployés ces prochains mois. C'est aujourd'hui la journée mondiale du droit à l'avortement. Le collectif Oser le féminisme en profite pour organiser une dizaine de rassemblements ce soir en France, à Paris, Lyon, Rennes ou encore Nancy. Les militants demandent la suppression de la clause de conscience pour les professionnels de santé. Le candidat de Donald Trump à la Cour suprême remporte un premier vote ce soir au Sénat américain, accusé d'agression sexuelle. Le juge Kavanaugh pourrait ainsi faire basculer la Cour suprême du côté des conservateurs pour une dizaine d'années. Et puis l'Agence nationale de sûreté du médicament invoque la nouvelle loi du secret des affaires pour ne pas révéler des informations sur le Levothyrox. Ce médicament contre la thyroïde pourrait être responsable d'effets indésirables depuis son changement de formule. La loi sur le secret des affaires est en vigueur depuis juillet dernier.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Apparemment, les deux têtes de l'exécutif, c'est l'expression consacrée, étaient de sortie pour tenter d'expliquer la réforme. Temps fort hier soir de l'émission politique sur France 2, Édouard Philippe et Laurent Wauquiez, qui ont croisé le fer sur le thème de l'immigration.
Si nous voulons régler cette question, ou en tout cas trouver les meilleures solutions possibles, nous devons travailler avec les pays d'origine, travailler avec les pays de transit, renforcer les frontières de l'Europe, reconduire les étrangers en situation irrégulière chez eux. Nous devons agir sur l'ensemble des sujets et des facteurs.
Parce que le sentiment que vous donnez à ceux qui nous écoutent, c'est qu'au fond, c'est une réalité qui s'impose à vous et que vous ne choisissez pas. C'est pas vrai. C'est vous qui décidez cette année de donner 80 000 titres de migrants économiques, alors même que notre pays connaît ce niveau de chômage. C'est vous qui, sur les politiques d'immigration familiale, faites le choix d'aller aussi loin. C'est vous qui, sur la régularisation des clandestins, ce qui est pour moi une absurdité, parce que vous donnez une prime à l'irrégularité, à l'illégalité, choisissez d'aller aussi loin.
Virginie Le Petit, qu'est-ce que vous retenez de cet affrontement, ce duel entre ces deux personnalités? Au fond, on a l'impression qu'il y a deux droites qui s'affrontent.
Il y a très clairement deux droites qui s'affrontent, comme dans beaucoup d'autres pays européens d'ailleurs, hein, où on a une droite extrêmement dure, dont l'immigration est vraiment le thème majeur, avec des choses qu'on nous ressasse quand même depuis près d'un siècle.
Hein, avec
les mêmes arguments.
Avec des débats similaires dans d'autres pays.
Moins calmes dans d'autres pays, les débats. Mmh. Mais on a en général, alors c'est pas deux droites, hein, on va dire des sociodémocrates d'un côté et une droite extrêmement dure. C'était le cas en Italie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Autriche, c'est le cas dans...
États-Unis aussi.
Aux États-Unis, ouais. Également. Voilà. Et l'immigration, avec toute la peur irrationnelle aussi qu'elle engendre, est un terreau extrêmement fertile pour la droite dure et les populistes. Et je pense que c'est pas si facile que ça d'opposer des arguments quand on joue sur un registre d'angoisse et de peur, comme le fait Wauquiez.
Alors Franck Tapiro, quand vous voyez cet affrontement, si je puis dire, vous avez senti Édouard Philippe un peu dans les cordes, il pratique la boxe, il faut le rappeler, et un Laurent Wauquiez peut-être sur des... quelque chose d'assez facile pour lui, assez easy life, comme disent les anglo-saxons.
Mais c'est leur posture, le Premier ministre qui est en place.
Posture, vous dites.
Mais bien sûr, c'est la posture du Premier ministre qui est en place, donc il est dans les cordes parce qu'il est à la manœuvre, on va dire, tous les jours. Et il y a forcément l'opposition qui doit s'opposer, donc il y a une version plus offensive, parce qu'il n'est pas englué dans les vicissitudes et la difficulté de la réalité quotidienne. Donc c'est totalement normal en termes de posture. Ce que je vois, c'est qu'il y a deux choses derrière. Moi, j'essaie d'analyser ça, on prend un peu de recul. Mmh. C'est évidemment le démarrage de la campagne européenne. Faut évidemment pas oublier que ce qui s'est passé là, c'est le début du débat des européennes, et 80% de ce qui se dira sur les européennes, parce que les gens déjà, on le sait, dans les européennes, choisissent en général la posture contre le gouvernement. En revanche, ce que vous avez dit est totalement vrai, je pense que l'argument clé, ça va être évidemment l'immigration. L'immigration au sens large. Donc, non seulement il y a ça, mais il y a un deuxième aspect du débat qui m'intéresse, c'est que si on se projette un peu plus loin, ces deux-là aimeraient bien se voir en posture dans quelques années, avec le leader de
vous
cette...
Vous parlez de quoi, là? De posture, la présidentielle, vous dire.
Mais bien entendu. Oui. Oui. Bien entendu, il y a l'homme d'après d'un côté, l'homme d'après Sarkozy, on va dire, de l'autre. Est-ce que Philippe sera l'homme d'après Macron? Je ne le sais pas. Est-ce que Wauquiez est l'homme d'après Sarkozy? Il l'aurait vrai, mais pour l'instant, ça ne marche pas.
Donc,
double rôle.
Allez, on rebondit là-dessus. Sois-y, Kemener, rien de nouveau sous le soleil. Au fond, Édouard Philippe, on le sait, proche d'Alain Juppé, à l'époque, hein, c'est la création de l'UMP, 2002, comment s'appelle-t-il? Laurent Wauquiez.
Alors, Laurent Wauquiez.
Laurent Wauquiez, pardonnez-moi, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, lui, avait fait le choix clair de Nicolas Sarkozy par la suite. Donc, on a au fond deux parties de la droite qui s'affrontent depuis toujours de la même façon. Et là, peut-être de façon externalisée, puisque l'un a rejoint le gouvernement et pas l'autre.
Oui, avec un enjeu. Moi, je pense qu'il y a un troisième enjeu. Je vous rejoins pas, en revanche, sur Édouard Philippe. Moi, je lui lis pas. C'est suffisamment rare pour le remarquer. Je lui lis pas d'ambition élyséenne. Peut-être que je me trompe, mais je trouve que c'est ça qui fait son intérêt. Son originalité aujourd'hui en tant que Premier ministre, c'est qu'il ne prétend à rien d'autre, donc peut-être à la mairie du Havre, mais bon, si je laisse ça de côté, ce que je trouve intéressant dans ce qui s'est passé hier soir, c'est que Laurent Wauquiez a senti tout le danger à être enfermé dans le duel progressiste-nationaliste qu'a posé en tout cas sur la table Emmanuel Macron en ouverture, et là je vous rejoins, des européennes, parce que c'est ça évidemment qui se jouait hier soir. Et donc Laurent Wauquiez, il essaie de s'inventer une troisième voie. Il essaie de dire, hein, je ne suis pas un nationaliste, mais je ne suis pas non plus Édouard Philippe, ce à quoi Édouard Philippe lui répond. La gauche nous a attaqué sur la loi asile et immigration. C'est donc finalement que nos positions sur l'immigration sont pas si laxistes que vous le prétendez. Donc chacun, il y a un jeu de rôle avec un autre adversaire.
Très subtil quand même tout ça, hein, parce que pour trouver vraiment la ligne de fracture, la frontière entre les deux, c'est pas évident non plus.
Alors, Laurent Wauquiez, c'est sûr, a un discours qui est beaucoup plus dur qu'avant sur ces questions-là, parce qu'il a envie d'être entendu sur ces questions-là.
De toute façon, oui, mais il reste européen.
Mais voilà, c'est toute la particularité de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire qu'il avait fait, Europe, il faut tout changer. Vous vous souvenez ce livre qui avait fait tant couler d'encre et poussé tant de cris à l'UMP parce que il venait d'être ministre des Affaires européennes. Donc c'est ça, Laurent Wauquiez, c'est celui qui a écrit Europe, il faut tout changer. Mmh. Il a été ministre des Affaires européennes. Il arrive en campagne sur des positions assez dures sur l'Europe. Et puis maintenant, on dit que ça pourrait être Michel Barnier, sa tête de liste. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver là-dedans. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'il a perdu Édouard Philippe parce qu'ils n'ont pas suffisamment parlé d'Europe parce qu'il aurait pu le renvoyer à ces contradictions-là.
Est-ce que Laurent Wauquiez, au fond, n'a pas dessiné finalement une ligne de ce que pourrait être demain celle des Républicains pour les élections européennes ?
Non, parce que finalement, la droite telle qu'elle est, et c'est ce qui est très dangereux pour les Républicains, la droite telle qu'elle est, c'est la droite d'avant 2016. C'est la droite qui refuse de choisir finalement une ligne politique, qui se rend compte que tout a changé, qui ne se rend pas compte justement que tout a changé.
Le déni.
Elle est dans le déni que tout a changé. On reste le parti des droits et des devoirs, alors que le paysage politique a complètement éclaté. Ce que j'explique dans mon livre, c'est les divisions maintenant, elles sont sociales, elles sont sur l'immigration, elles sont sur des choses comme ça. Et Wauquiez, effectivement, Laurent Wauquiez refuse de choisir. Il refuse de choisir. Un jour, il va être pro-Orban. Le lendemain, il va dire Victor Orban a toute sa place dans notre famille politique, le PPE. Le lendemain, il va proposer à Michel Barnier, qui n'est absolument pas compatible avec Orban, d'être le candidat de LR.
Mais c'est un peu ce qui a toujours existé dans les grandes familles politiques, au fond. Virginie Le Petit, ça existait déjà avant au sein du RPR avec des grandes familles qui se réunissent, qui n'étaient pas forcément d'accord sur tout.
Oui, mais malgré tout, déjà, il n'y avait quand même pas eu cette division.
Y compris sur l'Europe, particulièrement sur l'Europe.
Mais ça n'avait pas abouti à ce qu'une partie des membres du RPR quittent le parti pour un autre.
Ça, c'est un autre sujet.
Et deviennent chef de gouvernement.
C'est ce qui a changé aujourd'hui.
Ben, ce qui a changé, c'est que c'est, à mon avis, un mouvement beaucoup plus européen que ça. Et quand vous disiez tout à l'heure, Sozy Kemener, que Macron se posait ce sujet de l'immigration, moi, ce qu'on dit dans la presse européenne et américaine, d'ailleurs, c'est que elle le pose aussi comme le dernier rempart contre le populisme et contre toutes ces droites extrêmement dures. Donc ce qui change, je pense, c'est quand même des positions beaucoup plus tranchées et beaucoup plus crispées qu'auparavant.
Allez, 20h20 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Léo Técher.
La terre a tremblé ce matin en Martinique, séisme de magnitude 5,4 ressenti jusqu'en Guadeloupe où Emmanuel Macron est en visite. Pas de gros dégâts à signaler pour le moment. Les autorités martiniquaises ont établi un premier diagnostic en faisant le tour des sites sensibles. À l'autre bout de la planète, c'est un tsunami qui a frappé l'île des Célèbes en Indonésie où un autre séisme de magnitude 7,5 s'était déclenché plus tôt dans la journée. Une vague de 1,50 m a submergé plusieurs bâtiments de la ville de Palu où habitent 350 000 personnes. Le Rassemblement National veut se faire rembourser les prêts effectués à d'anciens candidats. Nous ne sommes pas une œuvre caritative ni une banque, prévient le délégué aux ressources du parti qui pointe notamment Florian Philippot, ancien candidat au régional de 2015 dans le Grand Est. Les parents de Sophie Le Tan vont se constituer partie civile lundi prochain. L'étudiante strasbourgeoise est portée disparue depuis désormais 3 semaines. L'avocat de la famille indique à France Bleu Alsace que ses clients veulent prendre connaissance du dossier judiciaire. Une marche blanche est organisée demain à Schiltigheim, au nord de Strasbourg. Et puis c'est terminé pour l'équipe de France féminine de basket, balayée en quart de finale du mondial 86 à 65 par la Belgique. Désillusion pour les triples vice-championnes d'Europe en titre qui espéraient un podium dans cette compétition.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions tout à l'heure la difficulté d'expliquer les réformes, alors pas ou peu d'annonces, hein, hier soir lors de la prestation d'Édouard Philippe sur France 2, mais une seule peut-être annonce a retenu l'attention.
Je pense que dans certains cas, elle peut être envisagée.
Donc vous êtes plutôt favorable ?
Je pense que dans certains
Lesquelles ?
Cas. Peut-être. Pas dans tous les cas. Lesquelles ? Je pense par exemple que pour ceux qui ont une... Pardon pour ce terme, il est complètement barbare, mais une très forte employabilité. Pour ceux qui ont des salaires qui sont très élevés, créer une forme de dégressivité, je ne parle pas de statut, hein, mais une forme de dégressivité de l'assurance chômage peut avoir du sens.
Voilà, vous l'avez compris, la dégressivité de l'assurance chômage. Franck Tapiro, comment se porte votre employabilité ?
Ça va plutôt bien, mais moi je suis entrepreneur, donc je suis plutôt employeur, donc j'essaie de créer de l'emploi.
Vous avez compris cette notion qui a été lancée hier soir. C'est un peu complexe, non?
Non, c'est en fait passer de l'égalité à l'équité. Et c'était ça aussi, ça fait longtemps que ça traîne un peu.
Expliquez-nous.
À droite et au centre, de dire, c'est bien de dire, est-ce que c'est la même chose pour tous, ou est-ce qu'il faut donner un peu plus à ceux qui ont moins et moins à ceux qui ont plus? Moi, je vous le dis sincèrement, si vous voulez mon opinion là-dessus, je suis complètement plus sur l'équité que sur l'égalité, parce que l'égalitarisme, je n'y ai jamais cru. Pour plein de raisons. Donc je pense que, pour une fois, ça c'est une mesure qui est extrêmement pragmatique, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont donc fort revenus, comme on dit, ou qui n'ont pas de problème d'employabilité, qui, je pense, seraient prêts à sacrifier une partie de ce qu'on leur devrait dans un monde égalitaire, pour peut-être donner un peu plus à ceux qui ont moins. Je trouve ça totalement logique, et je trouve que l'équité est une plus grande valeur que l'égalité aujourd'hui.
Ouais, Virginie Lepetit, rendre les allocations dégressives pour les salaires très élevés, vous validez cette piste?
Alors ça sera visiblement pas le seul critère, et je pense que tout sera là. C'est-à-dire, il y a les salaires très élevés et donc cette fameuse employabilité.
Pas facile à dire.
Et la question, c'est comment mesure-t-on cette employabilité?
Parce qu'il y a
le secteur, l'âge évidemment, le fait d'être un homme ou d'être une femme qui change tout, le fait d'être un cadre intermédiaire ou un cadre d'un niveau plus élevé, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça va être très intéressant de voir si jamais on arrive à ça, parce qu'à mon avis, c'est juste un ballon d'essai, ça. Si on y arrive, quels sont les critères et les outils de mesure qui vont être mis en place pour décider cette employabilité?
Oui, Thibaut Musard, vous avez une idée là-dessus? Vous, quel serait le curseur finalement?
Pour moi, le curseur, je crois cette histoire-là, c'est un faux problème. Dans ce sens, c'est fait pour quoi? Cette mesure, elle est faite pour quoi? C'est pas pour l'équité, même si c'est une bonne chose. Allons-y, on prend. Mais elle est faite pour, elle est annoncée d'ailleurs comme telle par le gouvernement, pour une mesure pour résorber le déficit. Or, le gouvernement dit exactement au même moment qu'il y a très peu de gens, en fait, qui sont concernés. Alors, soit il y a très peu de gens qui sont concernés à ce moment-là, ça ne va pas réduire les déficits et on est dans la com pure. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui vont être concernés et ces gens-là vont morfler.
Et on ne le sait pas encore.
Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que les gens à forte employabilité, généralement depuis 35 ans, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est-à-dire cette classe moyenne qui est en train de se réduire depuis 35 ans et dont je parle qui est une des quatre classes de mon livre.
C'est le thème de votre ouvrage, c'est vrai.
Voilà, et qui s'estime. Alors, c'est vrai ou faux, mais elle s'estime comme être celle qui paye pour absolument tout. Ça risque de renforcer un sentiment de ras-le-bol au sein de cette classe moyenne et la mettre dans les bras des populismes. Parce que ce qui fait gagner Donald Trump, par exemple, aux États-Unis il y a deux ans, c'est la classe moyenne qui se rallie à lui en fin de campagne.
Soazic Kemener, on a eu cette annonce aujourd'hui, cette confirmation finalement par l'OFCE que 8 retraités sur 10 vont perdre du pouvoir d'achat d'ici à 2020. Ce qui a été annoncé hier soir sur France 2, selon vous, est-ce que c'est une sorte de cheval de Troie pour rendre toutes les allocations dégressives et pour tout le monde in fine, ou bien on s'en tiendrait là?
Alors,
compliqué à dire.
C'est très difficile de vous répondre de façon précise parce que pour l'instant, vous l'avez dit, c'est un ballon d'essai. Mais ce ballon d'essai, alors il y a ce que vous disiez tout à l'heure, et puis il y a autre chose qu'on n'a pas évoqué. Quand on parle de dégressivité, ça veut dire qu'on ne traite pas tout le monde de la même manière. Donc ça veut dire qu'on fait deux blocs. On fait le bloc de ceux qui ont l'employabilité, donc ceux qui sont employables, et puis les autres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On instaure un clivage. Alors on ne sait pas encore quelle sera la barre à passer pour que ce soit dégressif ou pas dégressif. Mais en tout cas, on est en train de dire que tout le monde cotise et puis qu'ensuite, c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc moi, c'est la philosophie qui me dérange. C'est-à-dire qu'on crée des groupes dans le groupe. Mmh. Et je trouve que dans l'état actuel de la société française, moi, ça m'intéresse pas. On voit déjà qu'on a une dichotomie qui est en train d'être créée entre les actifs et les retraités. On est en train de dire aux retraités, écoutez, on privilégie ceux qui travaillent. C'est une philosophie politique, mais je trouve que le fait de toujours découper les choses, c'est pas obligatoirement intéressant.
Ça vous trouble un petit peu. Virginie Lepetit, encore un mot là-dessus, rapide. Est-ce que c'est un petit message envoyé, au fond, à l'électorat de gauche, quelque part?
Sans doute. Le fait de dire à demi-mot, on va moins donner aux plus riches et aux plus nantis pour en garder un petit peu plus pour tout le monde. Oui, sans doute, c'est un message à l'électorat de gauche. Mais Je suis pas certaine que ça va porter finalement, parce que ça ne résoudra pas le problème. Il est effectivement sur le financement hein, des allocations, mais il est aussi sur le fait que les gens retrouvent du travail. Et ça ne résout absolument rien.
Allez,
on n'est pas là-dessus.
Dans un instant, nous parlerons de la dette, un gros sujet hein, en France, mais aussi encore plus gros en Italie. Ce sera après la météo et après le journal.
Cécile est assistante et cliente Hyperbureau. Et quand elle s'assoit sur la chaise cassée de son salon, elle craque.
Chérie, tu comptes la réparer un jour cette chaise ?
Chez Hyperbureau, nous lui donnons ce petit conseil. Cécile, vous seriez bien mieux au boulot. Siège, mobilier, informatique, fourniture de bureau. Cécile améliore son confort et prend soin de son dos.
Hyperbureau. Hyper pro. Hyper proche.
Pour moi, le VIE est signe de réussite. Je dirige la branche Asie d'une marque d'artisanat français de luxe et j'ai choisi Samia en VIE au poste de responsable marketing, qui n'est pas pour rien dans nos derniers chiffres.
Merci. Oui, après mon école de commerce, je voulais faire mes preuves. Et c'est super car... Pas maintenant, je suis en interview.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Avec Business France, sourcez vos futurs collaborateurs pour votre développement à l'étranger. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos pilotes sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Du beau temps demain, beaucoup de soleil au menu. Il faudra composer avec la grisaille le matin dans les vallées du massif central des Alpes vers la Côte d'Azur. Elle sera plus compacte du Pays Basque à l'Ariège. On n'en parlera plus l'après-midi, mais on ne sera pas à l'abri d'une averse sur les Pyrénées. Le vent de nord-est sera sensible. Les températures, elles, seront plus fraîches sur les régions du nord. Seulement 5 à 10 degrés le matin, 17 à 22 l'après-midi. Et puis dans le sud, on partira de 12 à 18 degrés pour atteindre les 22 à 27 au meilleur de la journée. Dimanche, encore du soleil, mais on aura plus de nuages près de la Manche et aussi du massif central aux Alpes avec en prime un risque d'averses et d'orages.
Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir. Martine Aubry sera-t-elle à nouveau candidate pour la mairie de Lille en 2020? Le suspense reste total alors que la maire de Lille tenait sa conférence de presse de rentrée aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la cassure est totale entre la socialiste et Emmanuel Macron. C'est littéralement en tapant du poing sur la table aujourd'hui qu'elle a évoqué la politique budgétaire du gouvernement. Martine Aubry.
La politique qui a été menée avec cette thèse inepte qui n'a jamais marché du ruissellement vers les classes moyennes et les pauvres, tout cela a donné des échecs partout. Donc l'année dernière, c'était le budget de l'injustice. Cette année, c'est le budget de la casse sociale. Voilà, la suppression de 800 postes à Pôle emploi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit de traverser la rue pour trouver un job. Voilà, ça c'est nouveau. Donc on n'a plus besoin de Pôle emploi. Mais enfin, il n'y a que le président de la République qui pense ça. Moi, depuis qu'il a dit des gens qui ne sont rien... Pour moi, la cassure est totale. Parce que toute ma vie, je me suis battue pour sortir un par un des gens de l'état dans lequel ils étaient. Ça, c'est l'inverse. C'est leur dire, vous êtes des fainéants, vous êtes des cyniques, traversez la rue, va t'acheter un costard. Mais comment on peut parler comme ça quand on est président de la République? Le pognon de dingue qu'on dépense pour les pauvres, que connaissent-ils de la vie des gens pour les insulter? Parce que pour moi, c'est des insultes.
Martine Aubry au micro France Bleu Nord de Cécile Bideau pour France Info et au sujet de ce jeune horticulteur sans emploi qui n'avait qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Il a trouvé un emploi cette semaine en intérim dans une entreprise de cosmétiques. Le président de la République est en Guadeloupe aujourd'hui. Au programme de cette visite, l'accès à l'eau potable et les algues sargasses qui prolifèrent sur les rivages. Le président de la République a assuré que l'engagement de ramassage sera tenu dans les 48 heures. la Guadeloupe, où un séisme de 5,2 sur l'échelle de Richter a été ressenti aujourd'hui. Séisme qui a aussi touché la Martinique. L'épicentre était à 74 km de l'île. Le juge Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, vient de remporter le vote d'une commission au Sénat. Il doit à présent être confirmé par un vote final en séance plénière. Brett Kavanaugh est accusé d'agression sexuelle qu'il dément. Les principaux syndicats agricoles appellent au respect de leur métier et demandent au pouvoir public de faire cesser la violence inacceptable. La nuit dernière, un abattoir a pris feu dans l'Ain, incendie d'origine criminelle qui a détruit 3000 mètres carrés de bâtiments. Il n'y a pas eu de revendication, mais les syndicats agricoles estiment être victimes de violences disproportionnées de la part de militants véganes. Il est 20h33 sur France Info. La suite des informés, c'est avec Jean-François Aquili.
Les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités, Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International, avec Soazic Kemener, rédactrice en chef politique à Marianne, avec Franck Tapiro, président fondateur de l'agence Hémisphère Droit et à la tête du laboratoire de marketing émotionnel Data Calab, et Thibaut Musergue, directeur programme Europe à l'International Republican Institute, auteur de La Quadrature des Classes, coédition Le Bordelot. Alors c'est le chiffre choc de cette rentrée, c'est l'un des chiffres chocs de la rentrée. L'INSEE vient de publier le montant de la dette française au deuxième trimestre. Attention, 99% en léger recul toutefois en pourcentage, hein, mais alourdi de 5,2 milliards d'euros par rapport au trimestre précédent. Il ne faut pas s'y tromper, la situation est insupportable et donne un petit peu le vertige. Bruno Le Maire, c'était en début de semaine, lundi, le ministre de l'économie, devant la commission des finances du Sénat, après la présentation en Conseil des ministres du budget 2019, un extrait signé de la chaîne publique Sénat.
De 2007 à 2017, la dette publique est passée de 64% à 98% du produit intérieur brut. Voilà la réalité. De 2007 à 2017, la dépense publique est passée de 52% à 55% de la richesse nationale. Voilà la réalité. Et de 2007 à 2017, les prélèvements obligatoires sont passés de 42% à plus de 45% du produit intérieur brut. C'est aussi la réalité. Nous, nous inversons cette tendance. Et tous les débats peuvent avoir lieu sur la rapidité, la force de cette inversion de tendance. Mais l'inversion de la tendance elle-même, c'est un fait.
Soazic Kemener, pas besoin d'avoir fait des études supérieures pour comprendre que de 2007 à 2017, comment s'appelaient les présidents déjà? Nicolas Sarkozy, François Hollande? Il n'est pas tendre, Bruno Le Maire.
Non, il n'est pas tendre, mais c'est le jeu, c'est toujours comme ça. Sur ces questions-là, on s'appuie toujours sur les mauvais résultats de ses prédécesseurs. Bon, là, la réalité, c'est qu'on est arrivé donc à 2299,8 ouais. milliards d'euros de dette. Ouais. Alors, ça paraît vraiment vertigineux et indépassable. Et donc, alors, on se console en regardant nos voisins italiens qui sont à 200
euros. Ah, oui,
j'en parle trop tôt, c'est ça?
Non, non, mais... c'est pas grave. Donc, je précise pour maintenir nos auditeurs et nos téléspectateurs en haleine que ça vient, voilà.
Teasing.
Exactement.
Donc, j'ai perdu ce que je voulais dire.
Donc, l'Italie, c'est pire, vous disiez, ce sont des chiffres vertigineux, mais...
Ce sont des chiffres vertigineux et qui... Est-ce que ça en veut encore dire quelque chose? C'est-à-dire, pour les Français qui entendent ça, est-ce que 2299,8 milliards d'euros, ça veut encore dire quelque chose? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un chiffre qui n'existe plus tellement il est important.
Il n'y a plus de valeur.
Alors, Franck Tapiro, est-ce que cela... Très bonne question de la part de est-ce que ça a encore une signification, un sens pour les Français, enfin pour l'opinion publique en général, puisqu'il y a une valse de milliards depuis des années désormais?
Je suis totalement d'accord avec Céline Soazic, c'est impossible, 2000 milliards, 2200 milliards, que ce soit des euros, des dollars. C'est tellement énorme, de toute façon déjà quand on parle en milliards, déjà les gens lâchent complètement. En revanche, le seul chiffre intéressant, parce qu'il a du sens, c'est le 100% du PIB. 100% du PIB, ça veut dire quoi? Banqueroute, faillite. Bah oui, c'est tout simplement quand on va rembourser plus qu'on gagne, donc c'est impossible, on est en faillite. Donc on était à 1%, alors on a maintenu le suspense, c'est extraordinaire. à croire qu'Hitchcock était vraiment le fantôme d'Hitchcock était planqué à Bercy depuis 12 ans à peu près. On était à 99%, attention, on est à 1% de la faillite mais on n'y est pas. Et là on s'y approche, mais c'est vraiment TTC, hein, 99% TTC. Ça, ça a du sens. Mais il faut juste expliquer aux Français ce que ça veut dire. Elle est en faillite, malheureusement, je sais ce qu'une entreprise en faillite veut dire, parce qu'il y en a malheureusement trop. Elle est en faillite, il faut le dire.
Virginie Le Petit.
Ça ne veut pas dire qu'elle est en faillite, ça ne veut pas dire non plus qu'elle rembourse plus qu'elle ne gagne, ça veut dire qu'elle est endettée autant que ce qu'elle gagne. Mais ce n'est pas la même chose. On ne rembourse pas 100% du PIB tous les ans. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Et ce qu'a fait l'État français, c'est ce que font les ménages français actuellement. Les taux d'intérêt sont bas et l'État continue à emprunter parce que les taux d'intérêt sont vraiment extrêmement bas. Et c'est pas. Alors après, est-ce que c'est de la bonne stratégie? Est-ce que c'est de la bonne comptabilité de l'État français? C'est autre chose. Mais c'est pas une faillite. Le Japon est endetté à plus de 200% de son PIB. Alors, le Japon n'est pas en faillite actuellement non plus.
Vous dites c'est
des turbulences.
Vous augmentez les taux et vous savez très bien les conséquences.
Alors,
de tout
attendez,
ça.
Attendez.
Ça veut dire que quand les taux vont augmenter, là, on va avoir des problèmes.
Exactement. C'est le début de la fin.
Pas tous en même temps. Thibaut Muzerg, pour l'instant, les taux d'intérêt sont bas. La BCE joue son rôle de banque centrale européenne tampon, si je puis dire. Mais en cas de grave crise financière internationale, qu'est-ce qui se passe quand on est endetté à 100%?
Les taux, ils vont remonter. Le problème, la raison pour laquelle on a eu 2008, une des raisons, c'est que la Fed a gardé des taux bas après le crack de la bulle de 2001. Alors que l'économie américaine était en locomotive, qu'on avait des taux aux États-Unis qui étaient à plus de 3%, la Fed a dit non, non, on garde, à cause de la guerre en Irak, on garde des taux extrêmement bas. Sauf que le jour où tout se casse la gueule, excusez mon français, mon langage, anglicisme, le jour où tout se casse la gueule, on n'a plus de marge de manœuvre au niveau de la politique.
C'est pas seulement l'État dont il faut se préoccuper, c'est l'endettement des ménages et l'endettement des entreprises qui suit à peu près le même parcours.
Et non seulement ça, mais il faut suivre l'endettement européen. Parce que aux États-Unis, qui a pourtant une dette, on rentre dans quelque chose de différent, mais on parle de la dette, des déficits publics. Ce qui se passe, le problème en Europe, c'est qu'on a un marché unique européen, mais on a un marché unique qui est extrêmement inégalitaire, dans ce sens où l'Europe du Sud est extrêmement endettée, pour des raisons qui sont aussi des raisons de crise et des raisons bancaires. On a une Europe du Sud extrêmement endettée. On a une Europe du Nord qui est en plein boom et qui, au contraire, voit ses déficits. L'Allemagne, cette année, ou l'année dernière, l'Allemagne a battu des records d'excédents budgétaires. Et ça, si on veut faire une Europe unie, ça ne peut plus durer. Aux États-Unis, quand la Californie a fait banqueroute en 2009, l'État fédéral est venu au secours. Aujourd'hui, quand la Grèce a fait faillite. Qu'est-ce qu'ont fait les Allemands et qu'est-ce qu'ont fait les Français? On les a mis la tête sous l'eau. Ça n'est plus possible.
Allez, on poursuit sur cette idée de la dette. On va parler de l'Europe, justement. On va poursuivre dans un instant à 20h40 sur France Info après le rappel de l'info avec vous, Léo Téchère.
SOS Méditerranée appelle à une mobilisation citoyenne pour sauver l'Aquarius. Son bateau de secours aux migrants va se faire retirer son pavillon par le Panama et ne pourra donc plus naviguer. L'ONG répond par une pétition pour rappeler aux États d'Europe leurs responsabilités en Méditerranée. Elle organisera également des rassemblements dans toute l'Europe le 6 octobre prochain. Qui est derrière l'incendie d'un abattoir la nuit dernière dans l'Ain? Les syndicats agricoles accusent des militants véganes. Les professionnels de la viande demandent, eux, à Emmanuel Macron d'enrayer immédiatement les offensives sectaires dont ils se disent victimes. La piste criminelle est en tout cas privilégiée par les enquêteurs. Un discours d'Emmanuel Macron attendu ce soir en Guadeloupe. Deux problématiques pour le chef de l'État: les sargasses, les algues brunes toxiques qui prolifèrent sur les rivages, et les coupures d'eau à répétition. La France, l'Allemagne, la Russie et la Turquie réunis le mois prochain en sommet sur la Syrie, annonce d'Angela Merkel aujourd'hui, qui s'intéressera particulièrement au sort de la province d'Idlib que le régime de Bachar al-Assad veut reprendre aux mains des rebelles. Et puis les golfeurs européens inversent la tendance contre les États-Unis à la Ryder Cup. Ils repassent devant grâce à leur victoire dans les 4 doubles d'aujourd'hui à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'Europe mène 5-3 et il y a une anecdote à retenir de cette première journée, c'est la sérieuse blessure, mais pas grave, d'une spectatrice qui a reçu une balle en pleine tête lors du puissant coup du départ.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors il y a plus fort que nous, c'est l'Italie, avec un taux d'endettement donc à 132% du PIB. Elle affiche le ratio le plus élevé de la zone euro, après la Grèce tout de même. Rome fixe aujourd'hui, du moins le nouveau gouvernement en place, à 2,4% son objectif de déficit pour les trois prochaines années. Vous me direz, c'est pas mal? Eh bien non, c'est un objectif trois fois plus élevé que ce que prévoyait le précédent gouvernement de centre-gauche, on va dire, pour Pierre Moscovici. Le projet du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, qui sont en place, hein, est hors des clous. Le commissaire européen aux affaires économiques, invité de BFM TV ce matin.
Si les Italiens continuent de s'endetter, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, à un moment donné, le taux d'intérêt augmente. Le service de la dette, donc le remboursement de la dette, devient plus exigeant. Et tout euro consacré au remboursement de la dette, il ne faut pas que les Italiens se trompent, est d'un euro en moins pour les autoroutes, un euro en moins pour l'éducation, un euro en moins pour la justice sociale. Quand on est endetté, on est ferré. Et on ne peut pas agir. On n'a plus de marge pour les services publics. Voilà pourquoi c'est pas un bureaucrate de Bruxelles qui parle là. Je suis persuadé qu'il n'est pas de l'intérêt de l'Italie, oui, et des Italiens de s'endetter.
Dites-moi,
c'est pour ça que faire de la relance quand on a une dette très élevée, ça finit par se retourner contre ceux qui le font.
Et
le peuple, c'est toujours le peuple qui paye à la fin.
Virginie, le petit dit un peu le contrat de ce que vous avancez tout à l'heure, puisque vous disiez le Japon, 200%, c'est pas grave, etc.
Bon, j'ai pas dit que c'était pas grave, j'ai dit que
ça pouvait tourner, tout de même. Mais ceci étant, Rome défie Bruxelles sur le terrain budgétaire désormais.
Ah, mais Rome défie Bruxelles sur un certain nombre de terrains. De toute façon, le gouvernement la coalition qui est en ce moment au pouvoir défie sur un grand nombre de terrains Bruxelles, et ça fait partie cette espèce d'indépendance budgétaire, parce que c'est ça qu'ils affichent au fond. Ça fait partie des choses, je pense, sur lesquelles ils ont aussi été élus. Et effectivement, la question qu'on peut se poser, et je pense que peuvent se poser les Italiens, c'est quand on fait les efforts, comme ont fait les Grecs, pour tenter de répondre aux exigences de Bruxelles, et que finalement on n'en est jamais récompensé, on peut se dire, ben, pourquoi pas s'affranchir aussi de toute cette tutelle? Pourquoi ne pas chercher à relancer en s'endettant? Je suis pas sûre que ce soit effectivement la bonne façon de faire. En tout cas, c'est celle qui, dans l'immédiat, peut contenter les Italiens, qui réclamaient en plus. Enfin, il y avait un certain nombre de politiques de grands travaux qui devaient être menés. Donc voilà, c'est une façon de répondre aussi aux gens qui ont élu ce gouvernement.
Alors Luigi Di Maio et Matteo Salvini, ce sont les chefs de file du mouvement 5 étoiles et de la Ligue. Ils sont d'ailleurs des vice-présidents du Conseil. Ils ont salué, alors je rebondis sur ce que vous dites à l'instant, un budget du peuple, en expliquant que les intérêts économiques italiens est bien passé avant les inquiétudes des bureaucrates. Justement, Sozic Kemener, c'est très politique au fond tout ça. On valse avec des milliards, on joue avec des budgets, on fait de la politique.
Oui, et puis on joue aussi, parce que vous disiez, dans un premier, on joue avec les peuples, parce qu'on dit, dans un premier temps, effectivement, les Italiens vont être très contents, mais c'est double dose de populisme. Donc c'est la dose Salvini, dans un premier temps, avec l'immigration, et hop, deuxième coup de rasoir. Donc c'est les promesses sur le terrain budgétaire. Et évidemment, ça devient inaudible, les discours comme ceux de Pierre Moscovici. D'ailleurs, il en est lui-même conscient, puisqu'il dit, regardez, c'est pas un bureaucrate qui vous parle, il est obligé de se justifier avant même de dire quoi que ce soit. Mais effectivement, il y a quand même des questions sur ce qui a été mis en place, annoncé en Italie. Est-ce qu'il va pas y avoir des espoirs déçus? Quel sera le retour de bâton? Moi, j'attends de voir dans un an ce que ça donne, parce que là, on a l'impression qu'on a ouvert grande la boîte. Donc effectivement, il y a un retour sur vote, mais je pense que les choix qui ont été faits vont être payés plus tard. Donc il y a une vraie question sur ce qu'est en train de se passer.
Justement, Thibaut Musée, faire de la relance, au fond alourdir un petit peu la dette pour essayer de faire repartir la machine, c'est une idée acceptable ou pas?
C'est une idée acceptable si tout le monde y souscrit. Le problème qu'on a aujourd'hui, encore une fois, c'est ce problème de déséquilibre à l'intérieur de l'Europe entre le Nord et le Sud. Il y a un autre déséquilibre entre l'Est et l'Ouest, mais là, ici, ce qui nous intéresse, c'est le déséquilibre entre le Nord et le Sud. L'Italie, la compétitivité de l'Italie a été brisée par les réformes après 1991 et par l'euro. Alors qu'au contraire, l'Allemagne voit sa compétitivité augmenter, alors par des réformes certes, mais aussi par un euro qui est beaucoup plus faible que si on était au Deutschmark. Donc alors que les Italiens sont obligés de faire des gains de compétitivité plus forts que ce qu'ils devraient faire, parce que la lire devrait être au plus bas que l'euro, les Allemands ont exactement le problème inverse. Et derrière, les Allemands disent, ah ben non, il faut que vous fassiez de la rigueur budgétaire, parce que nous on l'a fait. Sauf que eux ils l'ont fait, mais avec un avantage de compétitivité en plus. Et c'est quelque chose que vous retrouvez partout dans l'Europe du Sud. Alors à un moment, il faut aussi que l'Allemagne et l'Europe du Nord viennent en aide à l'Europe du Sud et soutiennent une politique de croissance. Ouais. Mais tant que l'Italie, effectivement, est dans ce jeu on où elle est seule à faire...
On n'y est pas encore. Cette espèce d'entraide que vous souhaitez, on, y est, on en est très loin.
Il n'y en a pas du tout. Mais parce qu'il n'y a pas d'État fédéral comme aux États-Unis qui ait des marges de manœuvre. Et en plus, dans un système dominé par l'Allemagne, par une Allemagne qui, par son histoire, c'est normal ce qu'il propose. Il ne faut pas penser que les méchants Allemands, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, les Allemands le font pour une raison. Mais les Allemands ne comprennent pas que leur compétitivité, ils ne la doivent pas seulement à eux. Ils la doivent à un système économique qui leur est foncièrement favorable.
Franck Tapiro, quand on regarde ces problèmes de dette, de migration, le Brexit, est-ce que cette Europe se délite sous nos yeux ou ce sont des péripéties et ça va aller mieux dans ces jours?
Comme je disais tout à l'heure avec le face-à-face entre le Premier ministre et Laurent Wauquiez, on est en pleine campagne européenne. Rome rejoue les jeux du cirque. Qu'on donne au peuple une relance. On est exactement dans la même posture très romaine. On donne au jeu, et vous avez dit, on verra dans un an, mais dans un an, on aura déjà dépassé les européennes. Donc n'oublions pas que tout ça n'est qu'un calcul politique. En vue, moi, c'est malheureusement mon obsession aujourd'hui, mais je vois là-dedans, évidemment, cette lecture incroyable de rivalité, de confrontation face aux technocrates européens. Et c'est par hasard que les Italiens le font, d'autres le font derrière, et vous allez voir que ce n'est que le début d'une longue campagne, finalement, qui va montrer qu'on peut s'affranchir.
Il est là, le populisme que nous évoquons, techniquement.
Techniquement, oui. Et d'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la réaction de Moscovici, qui, en général, est assez posée, c'est qu'il s'énerve, il est obligé de s'énerver, mais pour se faire entendre, parce qu'on voit bien que c'est inaudible quand on est considéré comme un technocrate.
Ça pourrait être une chanson, je ne suis pas un techno.
Mais à la limite, il aurait pu le faire. Sans moi, ça aurait un impact, mais... Vous allez voir, on aura de nombreuses preuves comme ça de populisme qui montrent qu'on peut s'affranchir de l'Europe. Et ça fait partie de la campagne, malheureusement.
Virginie Lepetit, vous validez ce que dit Franck Tapiro ?
Sur le fait, en tout cas, ça risque d'être un argument, effectivement, dans les européennes. Et ça pourrait, puisque certains assument de ne pas répondre aux critères européens, il y a toujours, du coup, la tentation pour les autres qui connaissent les mêmes difficultés de se dire, écoute, pourquoi nous, on est obligé de s'astreindre à ces critères-là? Donc oui, il y a je pense que ça pourrait effectivement avoir un effet boule de neige, au moins dans les discours.
Thibaut Muzerc, encore un mot là-dessus.
La France s'est affranchie à de multiples reprises des critères européens, notamment dans les années 2000, quand ça allait bien. Donc les Italiens se disent, pourquoi effectivement.
On se souvient Jean-Pierre Raffarin qui tensait les fonctionnaires de Bruxelles à l'époque, Premier ministre.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le populisme, Francis Fukuyama, qui est loin d'être un populiste, qui est quand même plutôt un penseur libéral, disait que le populisme, c'est le nom qu'on donne à une politique qui est détestée par les élites, mais qui est voulue par le peuple. Par les gens.
Le populisme, c'est aussi opposer le peuple et le séparer en différentes fractions et
mettre
quelque part une soi-disant élite face à un soi-disant peuple, vrai peuple.
Mais dans les deux cas, quel que soit le point de vue, dans les deux cas, là, on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans.
Oui, nécessaire rappel de la définition donc de ce qu'est le populisme, parce que c'est vrai que nous brandissons ce mot régulièrement partout dans les médias sans trop jamais savoir de quoi il s'agit. Merci pour ce rappel sémantique, si je puis dire. 20h50 sur France Info, dans Les Informés. Le rappel de l'info avec vous, Léo Técher.
Une faille de sécurité révélée ce soir par Facebook. 50 millions de comptes piratés sur les 2 milliards d'usagers à travers le monde. Le créateur du réseau social Mark Zuckerberg promet que tout a été réparé hier soir, mais les investisseurs ne sont pas rassurés. Le titre Facebook perd 3% à la bourse de Wall Street. La ministre de la Justice rejette les accusations d'intervention d'Emmanuel Macron dans la désignation du successeur de François Molins. Nicole Belloubet rappelle que c'est le chef de l'État qui nomme le procureur de Paris. L'Union syndicale des magistrats dénonce justement des textes qui permettent au gouvernement d'avoir la mainmise sur la nomination. Les indications de Michel Fourniret n'étaient pas bonnes. Pas de traces de Marie-Angèle Domès dans le terrain ayant appartenu à la belle famille du tueur en série à Saint-Cyr-les-Colons dans l'Yonne. Les fouilles n'ont rien donné après 2 jours de travail pour les enquêteurs. Aux États-Unis, le juge Kavanaugh remporte un premier vote ce soir pour sa nomination à la Cour suprême. Accusé d'agression sexuelle qu'il dément, le candidat de Donald Trump pourrait faire basculer l'institution du côté des conservateurs après le vote final. Et puis il fait voter une augmentation de son indemnité d'élu de 56%. Le maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, fait passer son indemnité d'environ 2700 euros brut par mois à plus de 4200 euros. Il fait également baisser l'indemnité de ses adjoints de 5%.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Jean-François Aquili.
Merci bien Léo. On parle beaucoup d'argent ce soir. Tiens, allez, on va finir, on va boucler ces informés un petit peu. Allez, un petit peu petit bras, si je puis dire, puisqu'on va évoquer les dépassements de dépenses de l'Assemblée nationale. On n'est plus dans les 2200 milliards de Soisy Kemener. L'Assemblée nationale.
Ça, c'est pas les miens,
je crois. Oui, oui. L'Assemblée nationale, qui, et c'est une révélation du Parisien aujourd'hui en France, a dépassé de 47 millions d'euros son budget prévisionnel, hein, et a dû puiser dans ses réserves pour boucler, eh bien, ce budget 2019 à venir. Les députés dépensent-ils trop en frais de secrétariat, de retraite, et oui, d'immobilier, mais également d'informatique, comme le confirmait le premier questeur La République En Marche de l'Assemblée nationale, Florian Bachelier, sur France 2.
Quand on met en place des tablettes, on supprime les amendements papier, ça va faire une économie en termes de papier dans les années qui viennent. Quand vous mettez en place ces tablettes numériques du 21e siècle, vous avez 400 tablettes à acheter, mais c'est un investissement pour l'avenir.
Voilà, Florian Bachelier, que nous avions régulièrement invité sur ce plateau, et souvent très soucieux, hein, des finances publiques. Est-ce que, Franck Tapiro, au fond, on n'est pas toujours dans le même monde de cette espèce de litanie, de dépenses? On a l'impression que nos élus dépensent trop à chaque fois. À chaque fois, ça revient, cette histoire. Tout devait changer aujourd'hui.
Ouais, enfin, là, on parle apparemment de transition technologique, de transformation.
Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt positif.
C'est un très bon argument. C'est un très bon argument parce qu'on sait très bien que dans les sociétés, hein, dans d'autres entreprises, la transformation digitale coûte de l'argent. Et avec le même argument, ça coûte aujourd'hui pour que justement on fasse des économies pour plus tard. Donc maintenant, il faudrait juste vérifier.
Mais globalement, on devait faire
si
baisser le coût du Parlement.
Absolument. Donc, mais il faut juste voir, parce que ou c'est des dépenses en plus qu'on maquille par ce genre d'argument, ou alors vérifier tout simplement si c'est une transformation.
Un des gros postes, c'est quand même l'acquisition de l'hôtel de Broglie.
Je ne sais pas les comptes, hein, je ne peux pas vous
c'est
le dire.
Pas l'acquisition de l'hôtel de Broglie, ce n'est pas des tablettes.
Oui,
ça coûte un peu plus cher.
C'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est un prétexte fallacieux, ou est-ce que c'est une 45 millions pour une transformation digitale de l'Assemblée, ça me paraît énorme. Ou alors, peut-être que l'hologramme des députés, en cas d'absence, pourrait être autorisé. Là, ce serait formidable. Tous les députés seraient présents à toutes les assemblées. Donc si l'hologramme est autorisé à l'Assemblée nationale, ça devrait coûter plus que 45 millions. Voilà. J'attends d'avoir la facture.
Franck Tapiro est parti. Soisy Kemener, on le retrouvera peut-être plus d'ici la fin de l'émission.
Je suis un hologramme.
Soisy Kemener, au fond, est-ce que le renouvellement de la politique, de la vie politique, n'a pas eu lieu? On a l'impression qu'on est toujours sur des débats de dépenses publiques, toujours légèrement en dépassement, en hausse? Je vous pose la même question.
Bah, c'est aussi, il faut savoir, parce qu'il y a une guéguerre politique à l'Assemblée entre d'un côté Florian Bachelier, dont vous parliez tout à l'heure, premier questeur, et à l'époque, celui qui est aujourd'hui le remplaçant de Nicolas Hulot, François de Rugy, qui était patron de l'Assemblée. Donc il y a eu, c'était un enjeu politique, hein, entre les troupes proches de Richard Ferrand, lui-même proche du président de la République, et puis les troupes de François de Rugy, ces questions de budget. Alors ensuite, quand on regarde précisément le rapport qu'on a pu découvrir ce matin chez nos confrères du Parisien, effectivement, ce qu'on nous dit, c'est que les autres dépenses, c'est-à-dire ce dont Franck Tapiro parlait à l'instant, c'est-à-dire la transition numérique, c'est ça qui aurait coûté le plus cher. Je dis aurait parce que j'ai pas vu le document, qui aurait coûté le plus cher dans ce changement. Alors après, peut-être qu'on est en train de payer aussi, parliez de renouvellement, on est en train de payer le renouvellement des députés.
Beaucoup de retraités.
Beaucoup de retraités. Ensuite, beaucoup de nouveaux matériels parce que c'est la Startup Nation qui débarque à l'Assemblée. Donc, beaucoup de personnes qui ont l'habitude de travailler avec des outils informatiques. On voyait assez peu quand même d'ordinateurs dans l'hémicycle sous la précédente législature. Voilà. Donc, est-ce que tout ça s'explique comme ça? J'ai pas encore eu le rapport, mais c'est vrai que le chiffre est beaucoup plus important de ça. 47 millions. Je pense qu'on n'a pas fini d'en découvrir, effectivement.
Virginie Lepetit, ce type d'annonce peut, au fond, nourrir l'anti-parlementarisme chronique des Français, selon vous?
Oui, peut-être. Moi, ça me paraît quand même un peu moins choquant que ce qu'on venait entendu, en fait, dans le bulletin d'information juste avant et le doublement du traitement de...
Plus 56% de Patrick Balkany.
Là, pour le coup, oui, c'est une décision personnelle, en plus. Ça me paraît... En fait, les sommes sont moindres, mais ça me paraît beaucoup plus choquant. Mais non, mais effectivement... Mais ce que je comprends pas, c'est que si c'est vraiment du renouvellement de matériel informatique et avec une attente de retour sur investissement. Mmh. Normalement, ça devrait être étalé sur plusieurs budgets. Ouais. Enfin, je comprends pas en fait cette brutale hausse. Mais au-delà de ça, oui, je pense que ce qui est payé, c'est le renouvellement complet et le dégagisme qui a eu lieu et le fait qu'effectivement beaucoup de gens sont partis en retraite. Et là,
Et l'immobilier, vous disiez à l'instant, Thibaut Muser, que ça coûte cher d'acheter des hôtels particuliers dans Paris.
Surtout dans le centre de Paris, je crois que tous les Parisiens le savent très bien, ça coûte très cher. Mais le problème ici, c'est qu'on a on a plusieurs. Effectivement, il y a les retraites. Effectivement, il y a l'immobilier. Alors l'immobilier, ça peut être un investissement. Hein. L'immobilier, ça se vend ensuite. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui me choque, parce qu'effectivement, les chiffres, bon, ça fait peur aux Français, ça les choque. Mais ces chiffres par rapport à d'autres chiffres de déficit sont pas.
C'est
petit joueur, un petit entre guillemets. Mais on est par rapport. On a vendu des bouteilles de vin l'an dernier pour pouvoir être à l'équilibre. Là, au bout d'un moment, il faut repenser le système, quoi.
C'est le mot de la fin. Sozy Kemener, qu'est-ce qu'il y a à la une de Marianne demain?
Alors, c'est une multiple, mais je vous livre le titre principal. Flic, prof, chauffeur, urgentiste, ils s'en prennent plein la gueule.
À découvrir donc dans Marianne demain. Et vous, Virginie Lepetit, quelle est la une de Courrier International?
Sur les États-Unis et la Chine, c'est l'heure du choc. La guerre commerciale en cours est probablement le prélude à un affrontement beaucoup plus global.
Allez, dossier mondial. Merci à vous, Virginie Lepetit. Merci, Sozy Kemener. Merci, Thibaut Muzergue, d'être venu. Et merci, Franck Tapiro, vous êtes toujours là. Hein.
Oui, ça va, l'hologramme va fonctionner.
Tout va bien. Allez, rendez-vous demain soir pour une toute nouvelle édition des Informés de France Info avec mon ami Pierre Neveu. Bonsoir.